Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au vendredi 4 octobre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes au 5e numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa sur la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous capter sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est le décryptage, le débat, l'analyse sur l'actualité de notre pays, le Togo, et aussi du continent africain, mais également nous parlons du monde entier, et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, et aussi des invités, bien sûr, confrères journalistes en studio, Germain Poli, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Grâce à Dieu, ça va bien.
Mais à ton niveau, on ne dira pas que ça fait 2 jours, mais ça fait plusieurs jours là.
Oui, ça fait 2 plus d'autres jours. Bon, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM. C'est un plaisir de retrouver le club qui m'a manqué depuis quelques jours.
Justement, tu nous as manqué aussi au club, bien sûr. Olivier Adja, j'espère que Germain t'a manqué aussi.
Bien sûr, il nous a manqué tous et nous saluons tous ceux qui sont à l'écoute et notre confrère Germain et vos invités en studio ici.
Tout à fait. Et parlant d'invités, nous avons Stéphane Awiti, ce nom dit déjà beaucoup de choses dans la tête alors des Togolais. Stéphane, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Je vais bien, par la grâce de Dieu.
Alors, je rappelle juste que vous êtes le président de la Ligue togolaise de lutte contre le cancer et aussi et le directeur exécutif de Espoir Vie Nouvelle. Alors, bienvenue au club.
Merci.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça,
justement, nous allons parler, surtout, nous sommes en octobre, et avec l'étiquette que vous avez même d'ailleurs sur votre habit, ça démontre que nous sommes dans l'octobre rose. Et on va en parler tout de suite, mais je vais vers les autres invités, et je reviens à vous pour que, justement, on parle alors de l'octobre rose. Alors, nous avons Corneille Kouassi, qui est aussi avec nous. Monsieur Kouassi, bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur commercial et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
D'accord. Il y a aussi Gafo Abdou Djalib. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes aussi analyste politique. Nous aurons un débat tout de suite concernant, bien sûr, des sujets de l'actualité de notre pays et aussi alors du continent. Vous aurez votre mot à dire. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
D'accord. Alors Stéphane, rebonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà. Alors, parlons de l'Octobre rose. L'Octobre rose, c'est ce mois qui est réservé à la lutte contre le cancer, notamment le cancer du sein, et cancer quand même dans tous les domaines, bien sûr, hein, et notamment cancer du sein. Alors, concrètement, aujourd'hui, quand on parle alors du cancer, hein, surtout cancer du sein, c'est quoi la situation?
Oui, la situation est vraiment déplorable. Ça, je ne peux pas et manquer de le dire, parce que les femmes meurent toujours du cancer. Les femmes souffrent toujours du cancer. Et les femmes manquent toujours cruellement des moyens pour pouvoir avoir l'accès au traitement. Et durant 16 ans que nous avons initié l'Octobre rose au Togo depuis 2009, nous ne cessons de crier, d'alerter tout le public, surtout les décideurs, que le cancer tue les Togolais et le cancer décime la population, surtout la jeune féminine, les jeunes surtout. Et nous pensons que ça inquiète. Et avec l'Observatoire mondial du cancer de 2020, qui est toujours d'actualité, parce qu'il n'y en a pas d'autres encore, On parle de 973 cas de cancer du sein, avec 524 décès. Plus d'une femme togolaise meurt du cancer du sein chaque jour. Ça ne doit pas rester comme
d'abord,
ça.
Chaque jour
oui. Chaque jour, plus d'une femme togolaise meurt du cancer du sein. Nous devons relever le défi. Et le défi qui nous attend est vraiment énorme. Énorme. Bien vrai, nous saluons. Et l'État d'avoir enclenché de mettre des infrastructures modernes dans les hôpitaux, dans les centres médico-sociaux, tout ça là. Mais il va falloir que nous revoyons la stratégie de lutte contre le cancer. Parce que il n'y a pas seulement que de doter les structures, des infrastructures, mais de voir comment on peut accompagner la population qui n'a pas les moyens d'adhérer les assurances. La majeure partie des femmes n'ont pas l'assurance. La femme qui vend un gari au bord de la voie ou bien qui va vendre de l'eau, comment elle va faire pour faire un traitement qui coûte minimum 3 millions, 5 millions? Comment elle va faire les analyses? La biopsie simple coûte 80 000 francs. L'immunohistochimie coûte 80 000 francs. Le scanner, ça dépasse 80 000 francs. Les analyses, la radio. Et tout ça, c'est les analyses avant d'arriver à faire l'opération. L'opération qui coûte plus de 400 000 francs dans le public et plus de environ 900 000 francs dans le privé. Comment une femme qui a un foyer simple, dont peut-être le mari ne fait pas grand-chose, comment elle peut pouvoir s'offrir, je dirais, ce luxe du traitement qu'est le cancer? Et la chimiothérapie, le nom même du problème, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, il faut faire 6 à 10 séances. Et minimum, la femme doit dépenser autour de 2 millions dépassés. Et après ça, on vous dit que ce n'est pas encore fini. Vous devez faire la radiothérapie. La radiothérapie, je rends grâce à Dieu, parce que nous disons toujours avant que nous quittons ce monde, qu'il y ait la radiothérapie au Togo. Dieu merci, aujourd'hui, le centre de radiothérapie existe. Que nous saluons. Mais, c'est un joyau, mais il y a un mais. Le nerf de la guerre, il faut dépenser minimum 1 700 000 francs pour faire la radiothérapie. Et même après la radiothérapie, les séances de radiothérapie, on dit à la femme que vous devez suivre l'hormonothérapie. Vous devez prendre des produits pendant 5 ans. Et chaque mois, vous devez payer ce produit environ 20 à 30 000 francs. 27 000 francs, donc disons 30 000 francs. Et tout ça là, cette procédure,
oui.
Vous devez faire des analyses. Analyse pré-chimio. Vous finissez, on vous dit, vous devez faire l'analyse. Vous finissez même le traitement et on vous dit qu'on devait faire une analyse, des analyses pour pouvoir voir tout le contour. Mm. Et ça a un coût. Sans compter l'hospitalisation, les effets secondaires. S'il y a les effets secondaires, on ramène la femme à l'hôpital. Et ça a un coût. Vous voyez, tout ce que je viens d'énumérer,
oui.
Ça demande vraiment des moyens très onéreux.
Et tout à fait, ça demande des moyens très onéreux, je suis parfaitement d'accord.
Donc le thème de cette année, moi je parlais du thème de cette année, qui est l'accès équitable pour des soins plus justes. Parce que la journée mondiale contre le cancer que nous avons célébrée a pour thème pour des soins plus justes. Nous avons ajouté que accès équitable. Il faut l'accès équitable aujourd'hui.
Oui, Stéphane, dites-nous, c'est quoi la lutte aujourd'hui? Déjà avec cette lutte, à votre niveau, hein, avec votre association, comment ça se fait?
Oui, la lutte aujourd'hui, on a fait un long chemin. Aujourd'hui, la femme sait qu'il y a un cancer. La femme est consciente qu'il y a un cancer et elle doit se faire dépister précocement. Maintenant, les femmes nous appellent déjà en juillet, août, pour dire est-ce qu'il y aura les campagnes de dépistage cette année. Mais la femme fait son dépistage précoce aujourd'hui. Maintenant, la femme fait son dépistage précoce et on découvre qu'elle a un nodule dans le sein, une tumeur. Il a une anomalie et elle doit se faire opérer, elle doit se faire traiter. Et la femme revient vers nous. Monsieur Stéphane Avuti, on m'a trouvé un cancer. Nous sommes venus pour que vous nous aidiez. C'est ça le lot du problème. Et durant 16 ans, nous parlons de l'accès aux soins. L'accès aux soins, qu'on puisse aider les femmes à avoir accès aux soins depuis la 16e édition. C'est ça que nous menons cette année.
Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement n'accorde pas une oreille attentive même justement à cette lutte?
Non, on ne peut pas dire que l'État, le gouvernement est sourd. Parce que depuis que nous avons commencé ce combat, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. Mais c'est encore... On peut mieux faire. C'est encore
il y a beaucoup d'efforts
à faire. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que nous crions avant qu'il n'y a pas même un oncologue, un spécialiste oncologue médical. Et beaucoup de spécialistes prennent en charge les cancers, différentes formes de cancers. Mais je peux dire que plus de 5 ans déjà, nous avons un oncologue, une oncologue médicale qui est sur le terrain, qui est dans ce lot de pluridisciplinarité, de prise en charge. Et ça, aujourd'hui, on peut se dire que le cancer se traite très bien au Togo. Mmh. On n'a pas besoin de voyager. Mais
le traitement se fait au Togo.
Oui, le traitement se fait.
Et très bien d'ailleurs.
Très bien. Les gens viennent ici, d'autres pays. Je peux vous dire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de pays, c'est au Togo qu'ils viennent se faire soigner.
Mais c'est
la radiothérapie, c'est au Togo que les gens viennent faire ça. Mais je vous dis que les Togolais qui vont dans ce centre de radiothérapie n'arrivent pas. Quand on vous tend la facture pro forma, elles partent, elles ne reviennent plus. Quand elles partent, elles reviennent vers nous. Mais comment mobiliser les ressources pour pouvoir faire et pour l'aider pour les séances de radiothérapie? C'est ça le lot. On a négocié, je salue ce centre. Ce centre, nous plaidoyons une fois, le centre, la directrice m'a appelé pour dire que voilà, nos partenaires sont arrivés et les femmes dont vous parlez, qu'elles n'ont pas les moyens pour se prendre en charge. Donc, il faut les appeler, il faut qu'elles viennent pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Et on a diminué en ce temps. On a diminué en ce temps. Mais diminuer, est-ce que ce qui reste, est-ce que la femme peut payer? C'est tout un lot. Il y a d'autres femmes à qui on accompagne pour cautionner qu'après le traitement, elles vont payer. En ayant la garantie d'abord avec la famille de ces femmes-là. On fait beaucoup. Mais on peut en faire beaucoup. Parce que ce qu'il y a comme paradoxe, c'est que ce centre, ce joyeux est au Togo, mais les assureurs n'arrivent pas à accepter le traitement de la radiothérapie. Il faut qu'on arrive là aussi aujourd'hui. Que les assurances puissent accepter de prendre en charge les séances de radiothérapie. C'est voilà. Très important.
C'est très important. Alors, je sais que demain déjà, vous lancez une campagne. La campagne, je pense que c'est cette campagne traditionnelle, la traditionnelle campagne que vous lancez d'habitude. Alors, comment ça va se passer?
Oui. Non, c'est à partir de lundi, la campagne de dépistage. À partir de lundi, nous ouvrons la campagne de dépistage, la 16e édition au Togo.
D'accord.
C'est toujours réduit, c'est un tiers. Maintenant, cette année, à partir de cette année, il y aura le cancer du col de l'utérus qu'on a ajouté. Parce que c'est un challenge pour nous. Il faut zéro décès pour le cancer du col de l'utérus. Donc, nous ajoutons ça au cancer du sein pour que la femme puisse se dire qu'au moins, tendons vers la fin de l'année, j'ai fait mon check-up et que tous mes organes génitaux féminins sont en bon état pour être auprès de ses enfants et de leur mari, etc. Donc, le package généralisé. Toutes nos cliniques et hôpitaux partenaires, la femme ne paiera que 25 000 francs.
Au lieu de,
disons, 70 000. Il y a l'hôpital d'Antalafia qui est partenaire. Nous avons travaillé avec toutes ces structures qui sont très engagées à nos côtés, qui sont prêtes à accompagner même après le dépistage s'il y a quelque chose pour réduire les trucs pour que la femme puisse bénéficier des soins.
D'accord.
Donc, à partir de lundi, il faut que tout le public puisse nous contacter pour avoir où aller, pour aller se faire dépister. Cela ne veut pas dire que chaque femme est obligée de faire les deux examens. Si une femme veut faire seulement que le dépistage du cancer du sein et qu'elle n'a plus besoin du cancer du col de l'utérus, il n'y a pas de souci. Mais que la femme puisse décider de ne plus être indifférente. Parce que souvent les femmes disent « Ah, il y a ma vague bonio, ma oulaoué. » Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Il faut que la femme se décide aujourd'hui à faire son dépistage précoce.
D'accord.
Nous avons une sensibilisation très proche de vous ici.
Ah, demain, c'est plutôt une sensibilisation.
Oui, c'est une grande sensibilisation avec l'Union des femmes méthodistes, à l'église méthodiste ici. Nous invitons tout le quartier de
rencontrer.
Oui, parce que nous venons offrir vraiment le meilleur de nos sensibilisations. Il y a des surprises. Il faut que les femmes qui sont en campagne ici, là, se déplacent demain à 15h pour venir. Elles auront peut-être à bénéficier peut-être d'un examen pour aller faire le dépistage.
Tout à fait.
Donc, il y a beaucoup de surprises. Et n'ont qu'à venir.
D'accord. Alors, Stéphane...
Tout au long de l'année, nous avons beaucoup
d'activités.
Mais je pense qu'on va revenir.
Tout à fait. On va revenir là-dessus, puisque...
C'est juste pour annoncer la campagne que moi, je suis là.
Tout à fait. Et surtout que le mois d'octobre, nous avons encore beaucoup de jours devant nous.
Beaucoup de jours.
Donc, on aura l'opportunité alors de vous recevoir encore dans cette émission pour parler de cette lutte contre le cancer ou les cancers, comme nous aimons même d'ailleurs le dire. Si vous avez un contact sur lequel on peut vous appeler par rapport même justement à votre à la ligue
90 oui. 15 91 94 je répète encore 90 15 91 94
d'accord merci
et bon courage à toutes les personnes qui souffrent du cancer de tenir bon et nous sommes là pour pouvoir les accueillir toujours
d'accord merci beaucoup Stéphane Avuti merci pour cette lutte là que vous menez depuis un long moment et je sais que ça a commencé quand même par donner on peut appeler Stéphane sur le 90 91 94 Stéphane Avuti merci d'être passé alors dans cette émission
c'est moi qui vous remercie bonne émission
merci beaucoup je rappelle que vous êtes président de la Ligue togolaise de lutte contre alors, le cancer et aussi directeur exécutif de l'association Espoir Vie Nouvelle. Espérance Vie Nouvelle, voilà. Toutes mes excuses. Alors, chers confrères, nous allons entamer notre débat de ce jour. On démarre avec cette question de, vous savez, ce sujet qui a fait la une, même d'ailleurs, de l'actualité dans cette semaine. Je vais bien parler de cette question alors du riz. Varié ou impropre à la santé qui a été déversé à l'Egbacito. Olivier, vous avez écrit sur le sujet et hier, je vous lisais, vous avez écrit aussi un article pour faire des éclaircissements, enfin, surtout concernant la Bébé Lomé, puisque c'est de cette société qu'il s'agit. Hier, il y a Bébé Lomé qui a fait sortir un communiqué. Vous avez traité même d'ailleurs ce communiqué. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut garder de ce communiqué que Bébé Lomé a fait sortir, Olivier.
Oui, dans ce communiqué, la Bébé Lomé informe le public togolais, l'opinion nationale, que c'est lors de la destruction d'un lot et donc des tonnes de riz et que l'incident s'est produit et que ça concerne ses services. Et que ce sont des riz qui ne répondaient pas aux standards industriels. Bon, on peut analyser le sujet et les éléments de langage qui sont contenus dans le sujet. Toutefois, la Bible me informe qu'elle a suivi les procédures qui sont recommandées avec les services compétents pour pouvoir procéder à la destruction de cette quantité de riz. Et malheureusement, lors de cette destruction, elle a été dépassée par une foule qui s'est emparée de ce riz et qu'elle s'excuse, qu'elle prendra plutôt dorénavant les mesures idoines pour empêcher que ce genre d'incident puisse survenir à l'avenir. Voilà en substance ce que la Bébé informe ou bien indique dans son communiqué. Bon, maintenant, au-delà de ce communiqué, il y a beaucoup de leçons ou en tout cas de choses à dire sur la question. Et si vous permettez, on peut revenir sur les analyses.
Tout à fait, on va rester sur les analyses, on parle des analyses. Alors, Gervais, c'est vrai que quand on suit ce communiqué alors de Bébé Lomé, on se dit, Bébé Lomé parle d'abord d'un incident. Un incident qui s'est posé déjà quand au cours alors de l'incinération ou la destruction même d'ailleurs de ce riz. Mais finalement, comment se fait-il que l'incident pourrait alors se passer quand des gens viennent alors prendre comment l'appelle-t-on du riz du riz impropre? Parce que Bébé parle plutôt alors de l'incinération, mais le riz qui a été pris n'a pas été incinéré.
Bon, je crois qu'il parle de destruction, incinération, j'en sais rien. Je ne sais pas quelles sont les méthodes de destruction de ce genre de marchandises qu'on ne peut plus utiliser pour l'industrie. Je savais que la Bébé utilise beaucoup le riz pour fabriquer la bière. Donc je pense que c'est un riz qui n'était pas qui était impropre à l'utilisation au niveau de cette industrie. Maintenant, comment est-ce qu'on détruit ce genre de stock? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il fallait prendre plus de mesures. Maintenant, ce qu'il faut saluer, c'est déjà la réaction des associations de consommateurs, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, mais cette fois-ci, on a senti quand même la Ligue des consommateurs suivie pour attirer l'attention de l'opinion. Il y a le ministère aussi qui s'est saisi de l'affaire, et il y a la brasserie qui a apporté l'explication. Donc, je crois que chaque acteur a joué son rôle. Maintenant, l'inquiétude de l'opinion, est-ce que le riz qui a été ramassé là-bas, est-ce qu'il est impropre à la consommation? Est-ce que finalement, est-ce qu'il y aura des répercussions sur ceux qui l'ont recueilli là-bas et peut-être l'ont consommé? Bon, peut-être c'est à ce niveau qui peut subsister une inquiétude, mais la brasserie rassure qu'elle travaille étroitement avec les autorités donc pour essayer de mener à bien cette affaire-là. Donc, moi, je crois que cette affaire vient quand même nous montrer qu'on a du travail dans ce pays. Il faut sensibiliser les gens. Vous savez que parfois, quand, par exemple, il y a des accidents, vous allez voir les gens aller ramasser des choses. Parfois, c'est avec les produits pétroliers. Vous allez voir les gens courir et avec les drames que ça peut comporter, certains vont avec des lampes à pétrole, et que ce soit au Togo ou ailleurs. Ça arrive régulièrement. Donc, après, il faut que les populations soient sensibilisées pour ne pas forcément ramasser les choses qui sont versées, soit lors des accidents, qui sont sur le dépotoir. Parce que c'est pour une raison. Après, on dira, bon, on est pauvre, les gens sont pauvres. Et même parfois, des magasins jettent des produits périmés.
Beaucoup parlent même de la vie chère.
Voilà. Justement. Et certains estiment même que même quand on met la date de péremption, c'est qu'on peut ajouter 6 mois ou je ne sais combien qu'on peut consommer. Donc, il y a une certaine éducation. On peut bien consommer ce produit, ne pas tomber malade dans l'immédiat. Mais même quand, en cas d'épidémie, des volailles et tout ça, vous verrez des gens consommer ça, ils disent, non, il suffit de bien cuire ça, bien assaisonner ça, il n'y a pas de danger. Donc, nous sommes un peu dans de vieilles habitudes, peut-être qu'il faut commencer par combattre et à travers la sensibilisation. C'est vrai qu'on dira, ceux qui sont allés chercher ce riz, peut-être qui sont dans le besoin, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de se l'acheter. Mais ce n'est pas toujours ça.
D'accord.
C'est parce qu'ils sous-estiment souvent le caractère dangereux, parce qu'ils regardent à l'œil et ils se disent, mais ça c'est bon, si on lave ça, on prépare ça bien, on peut consommer. D'accord. Et quand il le fait, il consomme, il n'est pas malade le lendemain, il se dit, mais voilà, il n'y a rien.
D'accord. Que... Ok, Abdou, est-ce que vous avez pu comprendre hein, aussi ce tact alors des populations qui se sont ruées vers ce riz quand ce riz a été déversé? Impropre à la santé.
Oui, c'est vraiment impropre à la santé. Moi, je parle du constat du fait que si c'était un jeune homme qui a fait d'abord la vidéo, il a publié. Moi, quand je l'ai suivi, à un moment donné, les gens ont commencé par démentir. Et après de nombreuses enquêtes, c'est en ce moment-là qu'on s'en rend compte réellement que ça s'est vraiment passé au Togo et à l'Ekbasito. Mais vous savez, la vie chère a pris le dessus sur tout le monde actuellement. Parce que si tout le monde arrive à se servir, tout le monde arrive quand même à répondre à ses besoins alimentaires qu'il faut, vaquer à ses occupations s'il y a les emplois qu'il faut, normalement, je crois bien qu'il n'y aura pas ce incident.
Abdoul, là, je te dis tout de suite, mais quand même il y a la famine, ce n'est pas tout qu'on mange. Hein?
Oui, ce n'est pas tout qu'on mange. Voilà, moi je m'en vais accuser d'une part la brasserie et puis les agents qui sont chargés de la destruction de ce riz là. Est-ce que vous voyez? Donc, si le travail était réellement fait dans la logique, je pense bien qu'on n'aura pas ce problème. Parce que quand la douane, par exemple, saisit un produit pour la destruction, il met tous les moyens possibles jusqu'à ce qu'il incinère maintenant ce produit-là. Donc, aujourd'hui, l'État et la brasserie n'ont qu'à plaider coupable et essayer de voir les voies et moyens qui vont nous permettre dans l'avenir de ne plus tomber dans ces genres de situations.
D'accord.
Et de ne pas mettre la population en danger.
D'accord. Monsieur Kouassi, alors, quand on voit des gens qui se sont rués vers se rient parce qu'ils ont trouvé l'opportunité. Ils se disent, mais écoutez, quand il s'agit alors de se rire, c'est en quelque sorte quelque chose que nous trouvons, on peut facilement manger cela, mais quelque chose qui a été déversé sur un dépotoir. Alors ça, normalement, ça doit faire questionner même notre conscience.
Oui, cela doit faire questionner notre conscience, mais à vous entendre parler, c'est comme si vous pensez que cette population a fait exprès. La population n'a pas fait exprès. Parce que moi, quand même si je vois du riz dans des sachets dehors, qui n'est même pas sur un dépotoir, je ne le prendrai pas parce que j'ai quoi à mettre sous la dent. J'ai quoi à mettre sous la dent. Moi, je dois accuser ici et la BB qui est une entreprise ici. Une entreprise citoyenne, c'est pas normal qu'on aille déverser du riz avarié sur un dépotoir, des tonnes de riz avarié sur un dépotoir, sachant très bien que vous êtes dans un pays où 60% de la population tire le diable par la queue, les jeunes ne travaillent pas, vous voyez que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que la BB a pu faire pour pouvoir canaliser cela? Parce que quand on prend la drogue, on voit, c'est ce que Abdou Diallo disait tout à l'heure, les douaniers mettent tous les moyens à leur côté pour pouvoir incinérer ces produits toxiques. Mais le riz est toxique au même titre que la drogue. Parce que quand ça a varié, tu prends, peut-être un mois après, tu vas mourir, bien tu vas avoir une autre maladie ou bien un cancer, n'importe où. Donc, il faut que la BB s'accuse. Il faut que l'État aussi, parce que quand les entreprises viennent s'implanter dans nos pays, ils donnent plein d'argent à nos dirigeants. Donc, nos dirigeants ne prennent pas la peine de contrôler ces grosses sociétés. Mais une société, une brasserie, c'est une société industrielle. Ils utilisent beaucoup les produits chimiques. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Cela est fait, ça peut être une erreur. Mais pour moi, ça ne doit plus continuer. Ça ne doit plus continuer dans d'autres sociétés qui utilisent les produits chimiques pour travailler. Parce que là, les gens ont pris. Ils sont partis avec. On ne sait pas. Dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, ce qui serait. Ça peut être une maladie, ça peut être un cancer qui peut contaminer d'autres populations. Et c'est en ce moment-là que l'État va courir pour avoir des médicaments. Si l'État n'a pas les moyens, il faut emprunter de l'argent là où ils vont emprunter pour payer des frais plus grands. Donc l'État doit faire attention et que la BB fasse attention et que cette erreur ne puisse plus se passer. Au Togo ici.
D'accord. Nous sommes rejoints par Yao Claude Nkounou. Monsieur Nkounou, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes le président de TJP, Ton de la Jeunesse Patriotique, c'est bien ça?
Bien évidemment.
Alors, c'est vrai que vous suivez aussi cette actualité concernant ce riz impropre qui a été déversé à Lébacito, plus précisément dans le quartier à Rompé. Alors, comment vous expliquez le fait que les populations sont parties prendre alors ce riz?
D'abord, permettez-moi de vous saluer et saluer toutes les excellences autour de ce plateau, ainsi que tous ceux qui nous suivent, hein, qui sont en direct de la 93.5. Et merci beaucoup pour votre question. Mais d'abord, il faudrait d'abord dire merci à ce compatriote-là qui a eu la présence d'esprit, hein, de porter ceci à la connaissance de l'opinion. Il faut lui dire merci. Qui sait si c'est une énième fois. Qui sait si ceci est une énième fois, si ce n'était pas une habitude. Hein, c'est vraiment dommage et c'est triste. L'interrogation est que... il n'y a même pas d'interrogation. Si c'est avec ce riz qu'on fabrique la bière, c'est avec que ce riz est consommable. On ne peut pas prendre un produit toxique qu'on ne peut pas consommer et faire la boisson qu'on doit consommer avec. Donc ça veut dire que le riz est consommable. Alors donc maintenant, pourquoi laisser pourrir quelque chose qu'on peut consommer? Il y a des associations sociales où ils peuvent arriver à un moment quand ils savent que bon, ce riz arrive sur le point, ils peuvent donner ça et faire don à des associations pour des populations. On parle de Lomé, mais que direz-vous de l'intérieur? Donc c'est dommage. Et donc, moi, je pense que tout ce que j'ai à placer comme mot dessus, c'est de remercier ce compatriote-là qui a eu la présence d'esprit, hein, de nous faire découvrir ceci. Et donc, moi, je suis presque certain que ce n'est pas la première fois. C'est d'habitude, et c'est pourquoi les populations se sont ruées en masse, parce que ils savent que, voilà, à un intervalle régulier de temps, il y a quelque chose comme ça qui vient, et donc le message circule entre les citoyens, et donc voilà. C'est dommage.
Olivier, nous sommes en pleine capitale, nous sommes à Lomé, et quand on voit un geste de la population comme cela, ce geste à l'heure de la population, finalement... Quel est peut-être le message qu'on peut décrypter derrière ce geste?
Non, beaucoup parlent de pauvreté, de précarité. Peut-être, oui, que ça peut exprimer une certaine pauvreté, une certaine précarité, et un certain niveau de faim. Et donc, cela, on peut le reconnaître. Seulement limiter cette affaire seulement à cela, je crois que c'est perdre de vue beaucoup de choses. D'accord? Parce que, pratiquement, si on va dire, dans tous les quartiers, on peut retrouver des gens qui sont en précarité. D'accord? Donc, ça veut dire que les gens devraient, non, en principe, perdre de vue les risques qu'ils courent en allant d'abord sur un dépotoir. Ce qui, même si le riz était de bonne qualité, lorsque déjà ça arrive sur le dépotoir, je crois que ça peut être contaminé par des bactéries, des choses qui ne sont pas recommandables à consommer. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est le nombre de personnes. S'il s'agissait seulement d'une ou deux personnes, on dirait oui. Mais je crois que c'est un mouvement de foule. D'accord? Donc, c'est-à-dire que toute cette foule-là, tout le monde avait tellement, ou bien a tellement faim, tellement pauvre, pour pouvoir se retrouver dans cette situation. Si, je l'ai reconnu déjà, que ça peut, la pauvreté peut expliquer ça, mais pas que. Il faut faire attention. Et nous, en tant que leaders d'opinion et aussi journalistes, nous devons aussi attirer l'attention sur le fait que, et lorsqu'on a faim, c'est pas tout ce qu'on trouve qu'on mange. D'accord? Si vous avez faim, on vous donne du poison. Vous ne pouvez pas dire que c'est à cause de la faim que vous allez accepter ce poison qu'on vous a donné. D'accord? Donc, ça, il faut faire l'effort de résister à un certain nombre de choses. Ceux-là qui ont déversé ce riz là-bas, tout le monde l'a reconnu. Et voilà, leur action n'était pas n'est condamnable. Mais cependant, ceux aussi qui ont cédé donc à la tentation et à aller prendre des choses qui peut-être demain va plus leur coûter, va coûter à leur santé. Puisque si ces gens-là ont des problèmes, ils risquent de dépenser plus que le prix de la marchandise qu'ils ont pris. D'accord. Ou bien qu'elles ont pris. Donc, il faut quand même rappeler qu'il y a des dangers et qu'il faut faire attention en face de ces dangers. Ça nous rappelle, hein, ce n'est pas le même dossier, mais ça me rappelle le cas Probo Kuala en Côte d'Ivoire entre-temps. D'accord? Ce sont des produits, là, ce n'était pas consommable. Ça a eu quand même des effets très négatifs sur la population et nous avons vu tout ce dossier, comment ça a été géré. Donc, faisons attention pour que nos populations à chaque fois ne cèdent pas à la facilité et derrière qu'elle puisse récolter des conséquences qui seraient plus nuisibles que ce qu'il poursuit.
Merci beaucoup, Olivier. Alors, il y a le journal Le Temps Nouveau qui titre sur le sujet « Affaire de riz avarié récupéré par les populations, le summum du paupérisme ». C'est une interrogation du journal. Alors, Germain, nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à ce sujet alors du député Guy Marus Sagna qui a été agressé à Lomé. C'était le dimanche dernier. Et il y a le journal Le Temps Nouveau, bien sûr, qui titre également sur le sujet « Guy Marus Sagna agressé à Lomé, avalanche de condamnation ». Il y a le journal Le Populiste, qui titre également sur le sujet « Togo, indignation après l'agression du député sénégalais Guy Marus Sagna ». Alors, on suivait justement ce dossier et on en parlait même d'ailleurs depuis le début alors de cette semaine. On a eu à faire quand même des analyses autour alors de ce sujet. Alors, finalement, Germain, quelle est votre analyse alors sur ce sujet ?
Mais la première analyse, celle que tout le monde a pu faire, c'est de condamner cet acte, se dire mais pour une réunion publique, c'était pas nécessaire déjà de l'empêcher, même si c'est en tournoi togolais, de cette manière, avec des intrus. Et maintenant, avec un autre qui est venu dans le cadre de la session délocalisée du Parlement de la CEDEAO, donc c'était beaucoup plus condamnable. Ça, c'est dans un premier temps. Mais après, quand le bureau de l'Assemblée nationale a fait sa sortie, et que ce bureau qui condamne déjà l'acte comme tout le monde l'a fait, mais qui revient sur des faits et qui explique qu'ils ont convoqué le député, donc je pense la veille de ce rassemblement-là, pour lui dire voilà, la réunion est interdite et on ne lui conseille pas d'aller, tout le bureau, plus le chef de délégation qui était là, qu'il a refusé, il est allé. Je crois qu'à ce moment-là, je pense qu'il met mal à l'aise son institution, qui d'ailleurs pense à revoir le texte pour voir le comportement des députés quand ils viennent dans un pays, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils respectent les lois de ce pays. À partir du moment où le ministre de l'administration territoriale saisit le Parlement de la CEDEAO, voilà, il y a telle information sur les réseaux sociaux, il y a tel un de vos membres qui vient assister à une réunion qui n'est pas autorisée, ça, je pense qu'il aurait pu respecter et ne pas aller, surtout que ses collègues le lui ont demandé. Maintenant, ça n'explique pas qu'il se fasse agresser, ouais. Mais je crois qu'on aurait peut-être évité cette situation si au moins il se disait, ben voilà, je suis dans un pays où on a interdit. C'est pas nécessaire, il peut aller le dénoncer après d'une autre manière, ben je voulais assister à une réunion qui a été interdite, on est dans une dictature, on est dans tout ce qu'il a l'habitude de dire. C'est pas bien grave. Mais le fait de défier les lois du pays où le ministre dit que ce n'est pas autorisé. Toi, un député qui fait des lois, qui est censé aider à l'application de ces lois, tu les violes. Et donc, à partir du moment où le bureau de l'Assemblée fait cette sortie, je crois que derrière, il y a le bureau est mal à l'aise. Sinon, il n'allait pas expliquer cela. Au même moment que cette affaire salit un peu le Togo, en même temps, ça montre le dysfonctionnement au niveau du Parlement de la CEDEAO, parce que un député, quand il vient pour une session, il s'occupe de la session. C'est vrai qu'il explique qu'il a un mandat, et il est allé voir ses mandants, tout ça. Bon, sa façon d'expliquer, quoique il n'est pas un député élu comme ça se fait au niveau de l'Union européenne et tout ça. Bon, mais je crois qu'il aurait pu quand même, à partir du moment où les autorités togolaises disent « cette manifestation n'est pas autorisée », il n'y va pas.
D'accord.
Mais okay. Après, il peut dénoncer cette interdiction avec toute la violence qu'il veut, toute la virulence qu'il veut.
Monsieur Lukunu, alors, on dit, c'est vrai qu'après tout, nous avons appris par la voix de la police et également du Parlement de la CEDEAO que cette rencontre citoyenne a été interdite. Mais finalement, rien n'a été notifié aux organisateurs, puisque quand nous avons posé la question aux organisateurs, rien n'a été notifié à ces organisateurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas marché?
Oui, ben, ce qu'il y a, et qu'il faut remarquer, qu'il y a de l'incohérence. Nous ne pouvons pas prétendre être un pays démocratique et empêcher aux partis politiques de pouvoir au moins se retrouver au siège de leur parti et tenir des rencontres. Ça fait de l'incohérence, c'est-à-dire que ça n'a même pas de sens. Et on doit même être gêné d'affirmer cela sur les médias. C'est triste, c'est dommage. Ça fait de l'incohérence et ça montre une certaine légèreté. Alors donc, il ne s'agit pas d'une manifestation pour même occuper la voie publique. Il s'agit d'une rencontre au siège d'une formation politique. Ça, c'est d'un. De deux, je nous comprends, M. Pascal, parce que vous savez, et lorsque nous parlons aujourd'hui des regroupements, etc., tout ça, ce sont des conseils que nous copions des Occidentaux. Mais notre gros problème est que ce que nous copions des Occidentaux, nous avons de la peine à les traduire avec élégance, avec finesse, ouais. Avec parce que prenez l'Union européenne, vous quittez un pays, vous rentrez dans un pays, vous ne savez même pas que vous avez traversé une frontière. Prenez leur fonctionnement, etc. et comparez à nous. Bon, donc moi je pense que nous devons en toute humilité prendre conscience qu'il y a un gros problème encore avec nous, nous les Africains. Hein? Nous devons en toute humilité baisser la tête et savoir que nous avons encore du travail sur nous. Parce qu'il n'y a rien sur nous qui suscite de l'admiration dans ce monde, de manière à ce que même ceux de qui nous copions, qu'ils soient tellement séduits pour dire « Oh, ben comment vous avez fait ce que vous avez copié ? Vous l'avez traduit, même jusqu'à innover, et pour qu'ils soient aussi obligés de revenir apprendre chez nous. » Il n'y en a pas.
Nous ne sommes pas les moins sur la planète quand même. Nous ne sommes pas les moins. Hein?
Est-ce que c'est une affaire de « nous ne sommes pas les moins » C'est une affaire de « nous faisons nos preuves ». Oui, ça ce sont des justifications. Alors quand nous allons nous éterniser dans ces justifications, nous ne voluerons jamais. Nous ne pourrons jamais impacter. Parce que je vous rappelle, M. Pascal, ce monde, c'est une question de capacité. Rapport alors, de quand vous avez la capacité... Non, pas rapport de force. C'est une question de capacité. Je parle de capacité.
Le pouvoir.
C'est-à-dire... Non, pas le pouvoir. C'est-à-dire et ce que vous êtes capable de produire, de réaliser, etc. Lorsque nous prenons les Occidentaux, ils ont la capacité d'aller sur la Lune, de fabriquer des avions, des armes, etc. Et ces armes... C'est grâce à eux que nous avons des armées, c'est grâce à eux que nous avons des équipements militaires, etc. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables. Alors donc, si nous prenons conscience de nos incapacités, nous serons beaucoup plus guidés par le souci de pouvoir réaliser des choses que d'être dans cette démarche-là, de bloquer son frère, de violenter son frère, de constituer un blocage, de vouloir jouer au tout-puissant sur nos frères. Jouer au tout-puissant avec quoi ? Avec des armes que nous sommes incapables de fabriquer. Et c'est avec ça que nous voulons nous croire puissants sur nos frères. D'accord. Donc nous devons revoir nos mentalités, okay. Hein, et voir comment nous devons nous reconstruire.
D'accord. Monsieur Kouassi, un député de la CEDEAO qui vient dans un pays qui fait partie de la CEDEAO pour une rencontre citoyenne. Alors, en quoi cela doit est-elle gênée ?
Normalement, cela ne devrait pas gêner les politiciens et ceux qui dirigent l'État togolais. Parce que quand j'ai écouté le député Sanya, qui a dit que cette manifestation, à cause de cette manifestation, les autorités l'ont convoqué auprès des instances de la CEDEAO. Et il a eu un entretien avec la présidente et son bureau. Il leur a posé la question à savoir, est-ce que je peux faire cette réunion avec mes mandants. Il faut que les gens comprennent encore. Peut-être que nos autorités ne comprennent pas que quand on dit qu'il est député de la CEDEAO, il peut aller partout, croiser les partis politiques et la société civile. Maintenant, s'il fait des dérives, les autorités peuvent convoquer la CEDEAO pour dire voici un de nos députés. Par exemple, CEDEAO, tu fais partie de la CEDEAO. Donc, Guy Sanya est aussi député togolais. On aurait dû le laisser parler. Et s'il commet des impairs, en ce moment, les autorités togolaises peuvent quand même convoquer Guy Sanya à la CEDEAO. C'est ce que le frère venait de dire. On ne peut pas créer des institutions. Et on ne respecte pas les tests des institutions. Je ne connais pas totalement les tests de la CEDEAO, mais je suis certain que c'est une copie conforme de l'Union européenne. Je suis certain que c'est une copie conforme de l'Union européenne. Nous sommes contents de donner des points de vue. On a vu le député suédois aller en France dire ceci, on a vu ceci, on a vu cela. Mais quand c'est nous, nous ne les mettons pas en application. Et quand nous ne les mettons pas en application, ça donne une mauvaise image de nos pays. Je ne parle pas seulement du Togo, parce que la même chose pourrait se passer à Abidjan. La même chose pourrait se passer à Cotonou. La même chose pourrait se passer à Kinshasa. Mais je pense que ce que Guy Sanya a fait, il aurait dû quand même mettre bas la terre. Quand tu connais, quand tu viens dans un pays, tu sais comment le pays fonctionne. Donc, Guy Sanya devait mettre bas la terre. On ne doit pas jeter l'opprobre sur le gouvernement togolais. Mais je crois bien que le gouvernement togolais doit faire très attention. Parce que quand vous circulez un peu dans l'Afrique, le Togo a une mauvaise presse sur la démocratie. Mais en matière de sécurité, on parle bien du Togo. Parce que quand je viens au Togo, j'ai jamais été agressé. On se prend jusqu'à une heure tardive. La sécurité, je tire le chapeau aux autorités togolaises. Mais sur le plan de la démocratie, il faut qu'ils fassent des efforts pour ne pas que le Togo ait mauvaise presse hors de son territoire.
D'accord, Abdou. C'est vrai qu'on connaît la position de Guy Sagnan sur un certain nombre de sujets. On se souvient même d'ailleurs de son intervention à Abuja, qui a écorché même d'ailleurs le chef de l'État du Togo ici. Alors, est-ce que finalement, quand Guy Sagnan qui veut rencontrer en quelque sorte ses citoyens ou ses mandants, comme lui-même il a dit, est-ce que finalement ça pourrait même constituer aussi d'obstacles?
Non, moi je ne crois pas. Et vous savez, le torchon, ça brûlait depuis. Et moi je ne pensais même pas que c'est un truc qui devait arriver ici à Lomé. Et comme on l'a dit, c'était une réunion dans un bureau. Ce n'était même pas un sit-in. Ce n'était même pas un meeting. Ils n'auront pas sorti dans la rue.
On parle de rencontres citoyennes.
Mais Sadia, il représente la CDAO. La CDAO, il représente aussi le Togo. Ce n'était pas une belle image pour quand même notre pays. Le général l'a toujours prôné avant de partir, la paix. La plupart des étrangers que moi je rencontre au Togo ont toujours félicité le Togo pour cette paix-là quand ils sont ici. Que par exemple au Congo, que ce soit au Cameroun, tu peux être en moto ou en voiture, on arrache ton sac. C'est des trucs qui ont cessé ici à Lomé. Mais ce qui s'est passé la fois dernière, ce n'est pas possible. On ne peut qu'accuser nos autorités, mais à chaque fois, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises informations et autour d'un sujet. Ils n'ont qu'à quand même faire les enquêtes et nous donner des vraies déclarations sur ce qui se passe. Guy Marie Sagnan, je crois bien qu'il a suivi les procédures. C'est vrai qu'à un moment donné, on l'a obligé à abandonner d'assister à cette réunion, mais il se dit non, mais on parle de la démocratie. Mais j'irai. Il a pris le risque, certes, mais il devait quand même aussi avoir un peu de retenue. Je pense bien qu'on n'aura pas à assister à ce qui s'est passé la fois dernière.
D'accord. Olivier, alors, c'est vrai que la police a annoncé une enquête qui est ouverte et que les responsabilités seront situées très, très, très bientôt par rapport à cette enquête. Vous y croyez?
En tout cas, c'est la position officielle et l'information qui nous a été donnée. Donc, on ne peut qu'accorder le bénéfice du doute donc, à la police. Et puis, c'est une obligation hein, donc, pour les autorités togolaises de faire la lumière sur cet événement malheureux qui jette de l'opprobre et du discrédit sur notre pays. Parce que, voilà, donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'information va très vite. Et donc, ce qui s'est passé et le dimanche est arrivé sur toutes les autres tous les autres continents et dans tous les pays pratiquement. Donc on te doit de laver notre honneur en recherchant les auteurs donc de cette agression et en les livrant à la justice pour que justice soit faite. C'est très important. Je crois que la scène politique, le jeu politique ne devrait pas être un ring hein. C'est d'abord un jeu démocratique de débat d'idées, d'échange d'idées et non pas de confrontation de biceps et de triceps. Donc il faut enlever cela. Mais je vais quand même donnez-moi deux minutes. Je vais
non rapidement
parce que il faut quand même avoir le courage d'explorer de nouvelles pistes dans ce débat. Nous avons entendu les condamnations et c'est vrai, il faut condamner avec la dernière rigueur, mais il faut explorer d'autres pistes, ouvrir d'autres voies. D'accord. Se demander, par exemple, si vous êtes hôte, quelqu'un, je vous invite dans ma maison, est-ce que vous pouvez aller vous associer? Bon, j'ai dit entre guillemets à mon adversaire et je serai content. Ça, c'est une piste qu'il faut explorer. Et là, c'est humain, c'est naturel. D'accord. En tant qu'humain, est-ce que quand je vous invite dans mon pays, dans ma maison, est-ce que c'est bienséant d'aller m'attaquer? Ça, c'est un élément. De deux, la stature de député de la CDAO. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est le Togo qui est le pays hôte. D'accord. Et le député, ils sont plusieurs, ils sont, disons, des centaines à arriver. Imaginez que ces centaines se mettent dans la même posture. D'accord. Et sur le plan diplomatique, sur le plan des échanges, de relations, de bonnes relations, Est-ce que c'est bien? Je me pose des questions. Je ne juge pas. J'ai au prime abord condamné et je condamne encore avec la dernière rigueur cela. D'accord? Ça, c'est un élément. Mais de l'autre côté, les organisateurs, l'État d'abord, la sécurité de nos hôtes, les plus importants, parce que ce sont des hôtes de marque. Est-ce que la sécurité a été assurée? Parce qu'on a retrouvé un député dans un quartier qui a été bastonné. Alors, au niveau sécuritaire, qui remettre en question? Moi, je remettrai en question en premier l'État togolais qui n'a pas pu assurer la sécurité. Parce que dans d'autres pays, pas loin d'ici, on kidnappe très rapidement ceux qui ont une valeur. D'accord? On les prend et on va les échanger contre des rançons. Donc, est-ce que c'était, c'est-à-dire un député de la CDO qui se retrouve dans un quartier en l'air et est bastonné par des badauds, parce que je mets entre guillemets, on ne connaît pas encore ceux qui ont fait ça. Et en dernière position, la sécurité assurée par les organisateurs. Vous voulez inviter quelqu'un d'une telle taille, envergure, est-ce que vous, il n'y avait pas les conditions élémentaires de sécurité à assurer, ne serait-ce qu'une caméra pour filmer ceux qui arrivent et sortent?
La présence de la gendarmerie doit au moins donner déjà de l'assurance quand même aux organisateurs.
J'ai déjà mis en cause l'État. La gendarmerie se trouve dans cette défaillance de l'État. Laissez-moi terminer. Les représentants même qui étaient là, quelle était la sécurité qui était assurée pour eux-mêmes? Parce qu'on a entendu, les journalistes ont été bastonnés. Donc, et finalement, ceux qui ont commis cet acte, et le temps passe, mais on n'arrive pas à mettre la main sur eux. Donc, il va falloir prendre les taureaux par les cornes et faire les choses de façon bonne et juste.
Ok, monsieur Nkunu, oui, 30 secondes.
Oui, juste en 30 secondes. Vous savez, d'abord, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer dans l'intervention de son Excellence Olivier Adja. Il disait, quand tu viens dans ma maison, et mon adversaire, donc si ton adversaire est dans ta maison, là,
non,
j'invite
quelqu'un dans ma maison et il sort dans le quartier. Mon adversaire peut se trouver dans ma maison. Mais tu peux avoir des adversaires dans ta maison.
Quand même, la politique, c'est pas la guerre.
Non, moi, j'ai donné
l'image. Bon, bref, c'est pour dire que. Et moi, ce qui m'importe fortement, ce n'est pas forcément qu'il faut mener enquête, montrer les auteurs. Ouais. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'il faudrait que de tels actes ne se répètent plus. Parce que non seulement ces actes-là violent, trahissent l'esprit de la réconciliation de Ashkron, ça humilie le Ashkron, ça humilie notre pays. Alors, c'est pourquoi dans notre communiqué, nous avons estimé, nous sommes demandés, est-ce que ce sont des terroristes, des djihadistes venus d'ailleurs commettre ces actes-là? Bon, même si c'est le cas, nos services de renseignement étaient où? Pour que cela n'arrive. Bon, maintenant, si ce sont des Togolais, alors je pense vraiment que ces Togolais-là, je ne pense pas qu'ils seraient fiers d'humilier l'image de leur pays, de notre pays aux yeux du monde. Je ne suis pas qu'ils seront fiers de piétiner le Ashkron, qui était une initiative de réconciliation pour le vivre ensemble, l'acceptation mutuelle dans notre pays. Je ne pense pas. Alors donc, ils doivent se remettre encore dans leur conscience, dans leur psychologie, dans leur mental, pour comprendre que de tels actes sont à bannir et ne plus jamais, il n'y a rien qui puisse jamais justifier de poser de tels actes pour noircir l'image de notre pays. D'accord. Si vous aimez votre pays, vous n'allez jamais vouloir noircir son image. D'accord. Alors, donc, ceux qui ont commis ces actes-là, il faut qu'ils se remettent en cause dans leur conscience et savoir que plus jamais ils doivent sortir de cette mentalité-là.
D'accord. J'aimerais qu'on s'intéresse au sujet de l'AES. On va quitter un peu notre pays pour aller dans la sous-région. C'est-à-dire, on parle un peu de l'AES. L'AES qui est l'Alliance alors des États du Sahel, qui est composée de 3 pays. Il y a le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors, l'AES qui vient de faire pratiquement un an, qui célèbre pratiquement son premier anniversaire. Alors, pour ce qui concerne le bilan, il y a le président alors de l'AES qui est le président en exercice alors du Mali, qui a fait le bilan. Et quand on prend ce bilan, pour eux, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées en matière alors de sécurité. Et il y a des projections aussi, des projections de telle enceinte qu'il y aura même une banque qui sera pour les trois pays. Et aussi, il y a une carte biométrique également pour les trois pays. Alors, jamais, quand on prend ce bilan, est-ce finalement, comment vous analysez alors ce bilan de l'AES?
Faut dire que je n'ai pas suivi le bilan fait par le président en exercice, donc je ne pourrais pas me prononcer, mais il y a un bilan moral sur lequel moi j'aimerais vraiment me prononcer, qui est palpable. C'est que ces militaires-là sont appuyés par une majorité des Africains. C'est-à-dire les gens ont oublié la démocratie et ils applaudissent le coup d'État. Donc ça, c'est un fait qui doit nous faire penser. Est-ce qu'on ne veut plus la liberté? Là, on parlait de liberté de réunion, tout ça. Les gens s'en foutent de ça, là-bas. Au contraire, ils applaudissent. Les militaires qui ferment les radios et tout ça. Hein. Donc, c'est autre chose. Hein. C'est nous-mêmes qui parlons de liberté, mais c'est autre chose. Mais les gens appuient ça. Ceux qui condamnent ce qui s'est passé ici, ils applaudissent les militaires là-bas. Maintenant, pourquoi on les applaudit? Je crois qu'ils ont réveillé une certaine fierté de l'Africain, parce que ils ont tenu tête à ce que nous on appelle l'Occident qui écrase l'Afrique. On a vu dans l'affaire des militaires ivoiriens qui étaient retenus au Mali, comme moi, ils ont tenu tête à tout le monde, y compris à l'ONU. Et finalement, c'est le Togo qui a pu décanter la situation. Et ils ont aussi éveillé une certaine responsabilité de l'Africain qui se dit, bon, on ne veut plus de votre aide, on se prend en charge. Ça aussi, c'est quelque chose d'important en termes de bilan moral, hein, qui, à mon avis, est à retenir. Et ils se disent, mais laissez-nous le droit aussi de diversifier nos activités. Et donc, nos partenariats, j'allais dire. Et donc, ils se tournent vers d'autres partenaires et tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est trop tôt, un an, pour faire un bilan, mais je crois que sur le plan moral, ils ont rehaussé l'image de l'Africain. Maintenant, est-ce que les populations comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'il y a un suivi? Je pense que non. On les applaudit, mais nos actes ne suivent pas. Parce que quand ils partiront un jour, on risque de revenir en arrière.
D'accord.
Or, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, moi je le dis parfois en souriant, ils ont fait que les Occidentaux sont devenus un peu polis envers l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle aux Africains, on les respecte un peu, mais il a fallu que ces militaires-là arrivent, le fassent. Maintenant, est-ce qu'ils ont commis des erreurs ou pas? Oui, ils ont commis des erreurs énormes. Il y a même eu parfois plus de morts sous ces militaires que sous le président civil qu'ils ont chassé pour venir installer la sécurité et tout ça. Donc, ça, c'est à mon niveau, mais espérons qu'ils finissent un peu vite avec les questions sécuritaires et qu'ils remettent le pouvoir aux civils dans ce pays.
Merci beaucoup. Yao Klonukunu écarquillait les yeux quand vous disiez tout de suite qu'ils ont rehaussé en quelque sorte l'esprit africain, c'est-à-dire le panafricanisme. Alors, est-ce que ce n'est pas l'expression...
Les Occidentaux sont plus polis. Hein.
Ah, ben, voilà.
Quand ils parlent de l'Afrique aujourd'hui...
Est-ce que ce n'est pas l'expression du panafricanisme aujourd'hui chez... nos confrères ou nos amis alors de l'AES?
Non, vous savez, je pense que il y a beaucoup de confusion avec nous les Africains et également j'ai de la tristesse parce que cette situation révèle le niveau de vulnérabilité des populations, des peuples.
Comment ça?
Oui. Et d'abord, moi je vais préciser que moi, en tant qu'acteur de la société civile, un défenseur des droits humains, je ne peux jamais trouver un salut ou une excuse en des coups d'État. Moi, je condamne ceux qui ont violé des constitutions et ceux qui ont violé les tests, ceux qui ne peuvent pas respecter les tests. Moi, je condamne jusqu'à plus forte raison. Alors maintenant, cette question de AES, c'est une fuite en avant. Parce que c'est des gens qui ont un schéma bien caché. Ils sont arrivés. Si je vous donne l'exemple du jeune du Burkina, quels ont été ses propos les premiers jours? Non, je vais respecter le calendrier et tel que présenté à la CDAO, mais aujourd'hui, que voyons-nous? C'est-à-dire qu'ils ont des agendas cachés. Alors, donc, pour ne plus être soumis aux désirateurs, aux pressions de la CDAO par rapport au retour à leur constitutionnel, organiser les élections, donc c'est là qu'ils ont pris cette décision-là, qui est une fuite en avant de sortir de la CEDEAO parce qu'ils ont des emplois du temps bien cachés. Maintenant, à côté de tout ça, oui, une grande manipulation des populations parce que les sachants vulnérables, c'est en cela que je dis que nous les Africains, nous ne nous aimons pas. Parce que si nous disons, nous nous plaignons des Occidentaux, qu'ils nous dominent, ils nous manipulent, mais comment nous les Africains, nous-mêmes encore, nous manipulons nos propres compatriotes, nos propres frères? Alors donc ça veut dire que il n'y a rien de sérieux dans cette histoire de IOS. Mais
nous n'avons pas oublié de la situation qui les a fait venir au pouvoir. C'est-à-dire la situation même du terrorisme.
Alors bon, donc il y en a qui ont promis de faire un miracle, il y en a qui se sont présentés comme un messie. Alors dites-moi aujourd'hui, si ce miracle est déjà opéré, après combien d'années déjà?
Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui se fait. Alors oui, monsieur Kouassi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit cette affirmation de l'Africain chez l'AES aujourd'hui, est-ce que finalement, ce n'est pas pour lutter contre ce que nous avons appris, même d'ailleurs sur ce continent qui est la France-Afrique, et la France-Afrique, l'un des ténors même d'ailleurs de la France-Afrique, qui fait sa sortie ces derniers temps. Je vais bien parler alors de Robert Bougie, qui s'exprime librement sur les médias, à travers même d'ailleurs son ouvrage « Ils savent que je sais » et qui mettent en cause un certain nombre de choses qu'il faisait avec les chefs d'État africains.
Laisse-moi répondre à mes deux co-débatteurs.
Oui, allez-y. Allez-y rapidement, oui. Allez-y.
À mes deux co-débatteurs qui ont eu une mitraillette verbale auprès des États de l'AES, cela m'écoeure parce que quand on voit depuis les années 90 que la démocratie est venue en Afrique, que mes deux frères puissent me dire quel est l'État africain, le Ouest africain, qui s'est départi, qui a fait quelque chose de bon. Là où on peut dire, dans ce pays, nous avons la démocratie. Il n'y en a pas. Je ne crois pas qu'un seul pays peut nous donner un niveau de démocratie, même à 50%.
Mais est-ce que le Sénégal ne fait pas aujourd'hui?
Non, on a vu ça tout dernièrement avec Macky Sall. Laissez-moi continuer. Et aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ont combattu. Quand vous prenez Assimi Keïta, quand vous prenez Ibrahim au Burkina, quand vous prenez le général Tchiani, qui a vécu auprès de Bazoum, il y a des choses qu'ils savent. On a des confrères, nous avons des amis, nous avons des intellectuels, déjà, qui ne sont pas optimistes. Parce que quand moi je les entends parler, c'est comme ils ont commis l'un des plus grands péchés au monde. Que ces trois personnes-là ont commis l'un des plus grands péchés au monde. Nous avons fait 60 ans. Il y a eu les 30 ans de parti unique que les Africains ont dénoncé. Nous sommes venus dans les partis comme on appelle, avec la démocratie qui nous a été donnée, qui ne colle pas avec nos réalités, mais qui nous a plus créé de problèmes. Parce que c'est à partir des années 90 que nous avons connu beaucoup de rébellions. Parce que les Européens ont fragilisé nos chefs d'État qui étaient puissants. Il fallait amener d'autres personnes pour créer la division, pour qu'ils puissent vraiment nous contrôler. Mais cela n'a pas donné de leçon de morale à nos pseudo-intellectuels, à ceux qui pensent que l'Afrique, c'est la démocratie. De quelle démocratie nous parlons en Afrique? De quelle démocratie? La preuve, le Togo est un pays démocratique. C'est ce qui est dit à l'ONU. Voici ce qui s'est passé la semaine passée avec Guy Sagna. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique. C'est ce que les gens disent. Vous voyez ce qui se passe dans mon pays. Le Sénégal est un pays démocratique. Je voulais prendre le Sénégal comme exemple. Vous avez vu ce que Macky Sall a fait?
Mais si ça a été arrêté.
Maintenant, s'il y a des gens.
Donnez le Bénin.
Le Bénin.
Oui, le Bénin.
S'il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire changer les donnes, pourquoi nous voulons forcément cette politique monogamique? Pourquoi ne faisons pas aussi la politique polygamique?
D'accord, okay.
Pour que nous puissions savoir ce qui est bon à la longue.
Okay,
ne condamnons pas les gens parce que la révolution ne rime pas. pas avec la démocratie. D'accord. Il faut que les gens comprennent.
Okay, merci beaucoup,
une révolution dans ces trois pays.
Mais voilà, c'est nous, le temps nous talonne. Alors, Abdoul, finalement, quand on prend aujourd'hui ces pays du Sahel, alors ce sont des pays quand même qui veulent facilement aussi apporter du panafricanisme comme cela se doit.
Non, non, moi je ne suis pas d'accord parce que moi je suis mon confrère. Vous savez, les coups d'État, on devait quitter ce stade-là il y a très longtemps. Donner le pouvoir aux civils, c'est ce qui a été établi. Est-ce que vous voyez? C'est pas seulement des discours populistes, faire croire à la population que nous sommes en train. Depuis qu'ils sont là, est-ce que les terroristes, là, ils ont arrêté d'attaquer? Non, ils n'ont pas arrêté. Le vrai problème de l'Afrique, le frère l'a dit, on ne s'aime pas. Vous savez, on ne s'aime pas. Les terroristes qui viennent, ce ne sont pas des Blancs, c'est des Noirs. Quand les gens sont bien nourris, quand les gens sont bien assistés... Mais
qui parlent également de manipulation.
Ah non, mais quelle manipulation? Vous parlez de quel type de manipulation? Celui qui est bien nourri, il a tout ce qu'il faut. Mais comment on peut le manipuler?
Vous n'avez pas la tête,
c'est pas possible.
On va vous manipuler toujours.
On manipule depuis 60 ans, on va continuer de nous manipuler avec les réseaux sociaux.
Un mot par rapport à ce sujet. Un mot par rapport à ce sujet, c'est-à-dire ce bilan de l'AES.
Non, l'AES existe parce qu'il fallait qu'elle existe ou qu'il existe. Je crois que chaque peuple devrait avoir la liberté de prendre son destin en main. Hein. De toutes les façons, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Soit vous êtes dominé, soit vous êtes dominant. C'est les deux camps qui existent. D'accord. Dans le monde. Si vous n'êtes pas dominé, vous êtes dominant. Et pour sortir de la main ou de l'emprise d'être dominant, il faut quand même passer par un processus très difficile.
D'accord.
Donc, okay. Je crois qu'en une minute, l'Afrique, en tout cas, veut prendre son destin en main. Je ne dirais pas que c'est la voie la meilleure qu'ils ont prise. Mais à un certain moment,
c'est une option.
Il faut prendre des options.
D'accord, merci, merci, le pouvoir aussi. Merci beaucoup. Notre temps est déjà contre nous. Nous allons maintenant faire un clin d'œil à nos annonceurs et nous revenons juste après pour donner la parole à nos auditeurs.
93.5 FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 ou en 315. Premier auditeur que nous recevons, allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour Pélé.
Bonjour.
Comment vous allez?
Bon, je salue le plateau, je vais bien.
D'accord, le plateau aussi vous salue.
Cyril Tour, j'apprécie pour son développement et surtout pour la citoyenneté. C'est-à-dire ce que nous demandons, je dis, la population togolaise, au peuple togolaise, c'est-à-dire où se trouve même la souveraineté du peuple. C'est-à-dire pourquoi on ne veut pas donner la liberté au peuple togolais de s'exprimer. C'est la question que nous devons se poser aujourd'hui. Pourquoi on ne veut pas donner la liberté au peuple togolais? Voilà. Si nous parlons d'une république, on parle, nous quittons de la 4e république pour aller à la 5e république, par le peuple, est-ce qu'il y a la souveraineté maintenant? Lorsque dans vos pays où il n'y a pas la souveraineté, c'est ce qui se passe. Hein. Quand vous voyez ça, tout ce qu'on est en train de voir, que un député veut s'exprimer, ou bien une députée veut s'exprimer pour sa population, c'est-à-dire dans un enclos, et qui est le pire que dans son siège d'un parti politique constitué, structuré. Alors, on demande à ce parti une autorisation avant que ce dernier parle pour sa population. C'est là où se trouve la souveraineté du peuple. C'est la question que nous devons se poser aujourd'hui.
D'accord. Merci. Ok, merci Pélé pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi, voilà.
D'accord, allez-y.
Je vais sauter sur le point rapidement.
Allez-y rapidement.
Pour l'agression, je ne sais pas où est-ce que votre collègue a vu ou a lu qu'on a interdit la réunion. Ça fait un. Et de deux, vous avez, vous les journalistes même, quand le truc s'est passé, c'est un dimanche, non?
Oui,
c'est un dimanche. Vous n'étiez pas sorti. qu'on nous dit quoi que ce soit. Si c'était que nous, nous étions sortis pour y aller dans le parage,
monsieur
et tomber dans l'engrenage
là-bas. Monsieur Kofi,
oui.
Nous n'étions pas sortis, je n'ai pas compris.
Quand je dis sortir, ça dit, vous n'avez rien dit à propos.
Vous nous avez suivis tout au long de la semaine avec les organisations de presse.
C'est lundi, vous en avez parlé.
Mais tout au long de la semaine, nous en avons parlé.
C'est pas de dimanche là même. Mais c'est dans la grande nuit que ça s'est
passé. Mais on ne peut pas parler dans le dimanche. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Mais non, mais puisque ce que vous dites,
vous,
il faudrait.
Vous ne me pas quand vous indexez, vous les journalistes.
Non. Il faudrait quand même que tout soit dans une logique donnée. Ça, c'est très important.
Non.
Monsieur Kofi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on passe à un autre auditeur. 90 86 35 35 91 36 ou 315. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Monsieur Cyril Jacques de Bagada.
D'accord, allez-y.
C'est à propos de l'AES.
Oui.
Ces jeunes-là font aujourd'hui que ces Occidentaux sont en train de respecter à peu près l'Afrique. Comment est-ce qu'ils ont pu refuser de recevoir une délégation américaine? Est-ce que c'est impossible dans le temps? Aujourd'hui, ils ont bien dit que dans le temps, il y avait des esclaves de salon. Ça veut dire que lorsqu'il y avait eu un coup d'État, ils ont transformé ces présidents qui avaient des objectifs pour ces présidents, toujours à leur cause. Mais aujourd'hui, ces enfants, ces jeunes, veulent nous transformer notre Afrique à nous-mêmes. Ils ne veulent plus être conduits par ces. Donc, il y a tous ces Français qui vont dicter la loi à nos présidents. Attendez, on dit quoi, vous préparez comme un francophonie, les présidents pourraient encore aller là-bas. Ils vont nous ramener quoi? Ceux-ci sont restés chez eux. Qu'est-ce qui va leur manquer? Rien. Restons africains, prenons nos responsabilités et aussi progressons. Et dans ton pays, car ceux qui ne veulent pas suivre ce que vous êtes en train de faire, vous les amenez là où ils veulent. Regardez aujourd'hui la Chine. La Chine, on était presque tous sur les mêmes points dans les années 50. Mais aujourd'hui, ça, ils ont pris une décision. Là-bas, il n'y a pas de démocratie. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas devant ces occidentaux-là. Non, il ne faut pas qu'on arrête pour critiquer des gens qui veulent la liberté pour l'Afrique. L'Iranien, c'est devenu pour les Nigériens, non? Ce n'est pas les Français qui s'enrichissent aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est quand les Sahéliens ont tout pris. Il me dit la France, ça d'être là, ça monte à combien? Il faut voir ça. Quand quelqu'un cherche à faire sa monnaie, on le tue. On a tué Olympio. On a tué beaucoup de présidents qui ont eu l'idée de faire leur propre monnaie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des esclaves de salon encore dans la CEDEAO aussi, qui sont en train de perturber ces jeunes-là. Pourquoi on n'est pas une monnaie unique? L'AES va faire sa monnaie. Et vous allez voir, tous les pays de la CEDEAO vont le suivre.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur Irénée, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, et vous?
Ça va aussi, votre nom c'est?
Parti de Savoie. Non.
Ah, monsieur Kossi, allez-y.
Oui, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Merci beaucoup. Vous avez bien fait de recadrer le frère l'avant de nous. Le président avant moi. Parce que tout le long de la semaine, vous avez parlé de ce sujet-là, de cette agression.
Tout à fait.
Donc, un dimanche, la nuit, on ne peut pas faire l'émission. Là, vous voyez que c'est dans une région où vous travaillez. Donc, c'est bon. Je voudrais répondre par rapport à cette agression-là, pour dire que depuis lundi, je tentais de rentrer en ligne. Quand je suis le saint d'exemple, c'est comme si... Je ne peux comprendre que nous ne sommes pas en sécurité au Togo. Quand on me dit qu'on doit sécuriser l'honorable député sénégalais, on doit prendre les dispositions, tout ça là. Ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité en réalité. Hein. Ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. De tout contraire, nous avons pour dire que la CDK, la CDPA doit prendre les dispositions, tout ça là. Arrêtons tout ça là. Ce qui s'est passé est une honte pour notre République. Et beaucoup de choses ont été dites au cours de la semaine. Je crois que si nos autorités ont des oreilles,
ils doivent écouter ce que le peuple a dit. Ce que nous avons dit à propos de cette agression qui ne nous honore pas, qui ne honore pas notre République. Il faut quand même qu'on apprenne à se comporter mieux encore à l'égard des étrangers. Vous comprenez? Ça se passerait entre nous, ça serait moins. Regardez les journalistes qu'on a tabassés jusqu'à ce point-là. Est-ce que c'est bon? Nous sommes tous des Togolais, nous sommes des citoyens. Et vos amis, vos frères sont en train de faire le reportage. Vous avez le cœur là de prendre les appareils et les jeter dans le puits. Personne ne ferait ça. Quand on le prend, on va le jeter. Et jusqu'à présent, on nous dit que l'enquête est ouverte, quand même. Soyez sérieux. Soyez sérieux. J'interpelle nos autorités. Et le ministre de la Justice territoriale a nous montré ces gens-là d'ici lundi. Mais quand même, il ne faut pas qu'on se moque de nous là.
D'accord.
Merci beaucoup,
M. Kossi. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Oui.
Bonjour.
Le premier, elle est gagnée.
Pardon, Pélé. C'est Pélé qui est revenu?
Oui.
Rapidement.
Bon, je peux parler aussi du député Espagnoli, qui n'est pas à se présenter encore depuis Abuja. Mais il n'a pas seulement dénoncé, parce que je ne sais pas, je peux même dénoncer l'action des dictateurs, ce qu'il a posé comme il a trouvé le chef d'État togolais et le chef de l'État ivoirien, etc. Dans la vice-présidente de l'Assemblée, et de la Côte d'Ivoire aussi, était à lui. Et ce député-là, du Tania, était parti en Côte d'Ivoire. Et ils se sont réconciliés là-bas. Mais quand le député est arrivé ici, dans mon panneau, que le Togo est un pays de dialogue, un pays de paix, pourquoi le député ici, la députée Maniatou, ne peut pas faire autrement pour qu'il y ait une réconciliation? C'est là où il faut se poser la question.
D'accord.
Est-ce que les gens veulent la paix dans le pays?
Ok, merci beaucoup Pélé. Et Pélé, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Chers confrères, nous allons revenir en studio alors pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Germain, vous avez écouté les uns et les autres, c'est quoi votre réaction?
Non, j'ai pas de réaction particulière, hein. Je crois que les faits sont là et il faut pas revenir là-dessus, mais sur la santé de la démocratie en général et des droits de l'homme aujourd'hui, je crois que tout est en péril. Je l'ai dit tantôt, les gens applaudissent les militaires qui font des coups d'État. Les droits de l'homme sont massivement violés. Quand vous voyez sur le front en Ukraine, à Gaza, en Israël, un peu partout, et tout est... Il y a un nouveau modèle qui se redessine. Et même la puissance traditionnelle ne sont plus en forme. Il y a un nouveau pôle. Et il faut que l'Afrique trouve sa voie. Et je suis un peu déçu quand on parle de l'Afrique comme des gens incapables. Je crois que l'Afrique fait des prouesses. Cherchons notre chemin. Travaillons d'abord. Parce qu'on a comme l'impression que des gens viendront nous aider. En fait, l'Afrique est dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas africain, mais qui viendra aider l'Afrique. Et tous les pays africains, toutes les populations même, y compris malheureusement. Et donc, il faut qu'on se réveille, qu'on fasse comme les Chinois, comme les Indiens, qui aujourd'hui sont même en avance sur plusieurs plans par rapport à leurs colonisateurs, les Occidentaux, les Japonais et tout ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est contre les coups d'État, mais il y a un éveil de conscience qui malheureusement est en train de sortir de ces coups d'État, malheureusement ou heureusement selon, dans lequel on doit s'imbriquer et que les jeunes se mettent au travail.
D'accord.
Après, ce n'est pas les questions de liberté et de démocratie, mais c'est la pauvreté, c'est le développement aujourd'hui. C'est pour ça que les gens applaudissent les militaires. Ils croient que les militaires pourront développer nos pays. Et tant parce que les gens veulent régler le problème de pauvreté.
Merci,
aujourd'hui,
merci,
ils mettent ça, la démocratie sous
le
teignoir.
Merci, Jamais. Monsieur Nkoulou.
Bon, moi, je suis juste réaliste. Et mon réalisme est que nous sommes africains, et ce n'est pas une affaire d'Africains, que nous sommes dépendants Nous sommes des dépendants. Si on prend notre réalité à 100%, nous sommes dépendants même jusqu'à 90%. Même nous avons des militaires en Afrique ici, grâce aux Occidentaux. Parce que tous les équipements matériels militaires, nos têtes sont incapables de les produire. Donc nous sommes dépendants. Aujourd'hui, ces pays de l'AOS, ils disent, ils tournent le dos à la France et autres là, mais ils vont se prosterner à la Russie. Bon, donc, soyons cohérents. Maintenant, si nous voulons prendre conscience que nous devons nous construire, ça doit d'abord passer, faire comme la Chine et l'Inde, ça doit passer d'abord par l'esprit d'acceptation mutuelle, l'esprit de cohérence, de nation. C'est ensemble. Et nous devons nous départir de cette mentalité-là que des Africains veulent se croire plus puissants, plus importants que leurs propres Africains. Il faut que l'Africain arrête d'abord d'être un obstacle, un blocage, un frein pour son propre frère. C'est seulement avec ça. Sinon, là, nous allons toujours nous mentir, rester dans un discours d'un faux espoir, etc. Quand on fait développer quelque chose, il faut l'accompagner, le soutenir pour qu'il y arrive et non pas le bloquer, d'accord, et non pas l'anéantir, okay, le nuire. Okay. Voilà, merci. C'est ça la clé.
Merci. Monsieur Kouassi.
Je crois bien qu'on ne doit pas confondre la révolution et puis la démocratie, parce que les deux sont aux antipodes. On ne peut pas faire une révolution et puis laisser passer la démocratie, parce qu'il y a des gens au sein de cette révolution qui vont aller à droite. Dans une révolution, on ne suit ce que le maître dit, on ne suit ce que le révolutionnaire nous dit de faire. Maintenant, cette histoire de démocratie, moi je dis que je ne crois pas. Il y a un deuxième fait, le cas de Sanya au Togo. Je crois bien que les autorités togolaises doivent corriger le tir pour ne plus que ça se répète. Parce qu'en Afrique, l'étranger est roi. On nous disait dans le temps que l'étranger est comme Dieu. On ne sait pas si c'est un Dieu ou pas. Donc on traite bien l'étranger. On aurait dû traiter bien Sanya pour ne pas que le Togo puisse être vu hors comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. On D'accord. peut faire la révolution, respecter les droits de l'homme. On peut faire la démocratie et respecter les droits de l'homme.
D'accord. Abdoul
Oui, Pascal, mon mot de fin, c'est basé sur... Quand nous parlons aujourd'hui de la Chine et de l'Inde, c'est parce que ces États-là, ils ont industrialisé le pays. C'est ce qui fait de la Chine aujourd'hui là où il est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce que nos États africains font? C'est ce qu'il faut voir. Quand on industrialise, il y a plus de travail, il y a plus de matières premières, il y a plus de production dans le pays. Je pense bien que ça va renforcer notre économie. Si l'économie est bonne et qu'on peut se prêter d'argent entre nous, les Africains, on n'aura pas besoin de la Banque mondiale. Il y a eu, entre-temps, cette monnaie unique qu'on devait faire à l'époque. ECO. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? C'est là la question. Les frontières sont fermées entre les Africains. Ça ne marche pas. Le système Schengen est là au niveau de l'Europe. Le monde aujourd'hui est connecté. Les banques, il y a une banque ici, BDM, c'est du Mali, mais c'est là. Mais si les États de l'AES décident de quitter la CDAO, ils décident de faire ci, de faire ça, mais tous ces diplomates-là qui sont là aujourd'hui, demain, comment ça se sera?
D'accord.
Donc aujourd'hui, on ne peut que demander à nos chefs d'État de faire le meilleur d'eux-mêmes.
D'accord.
De savoir par quelles voies et moyens satisfaire le
population. D'accord, merci beaucoup, Olivier. Votre mot de la fin.
Non, je l'ai dit depuis que dans ce monde, soit vous êtes mangé, soit c'est vous qui mangez. Et si vous ne voulez pas qu'on vous consomme au petit déjeuner, vous devez dire non. D'accord, et les États de l'AES ont dit non. Ils ont eu le courage, donc, de s'opposer à certaines décisions, de laisser leur pays être donc l'outil d'amusement entre les gens, de pillage. Donc c'est bien, mais il faut dire aussi ce qui s'est passé le dimanche. Et vous savez que les médias, les radios, donc ne fonctionnent pas le dimanche. Je ne sais pas comment vous voulez demander à des radios de faire quoi, une émission spéciale ou et qui va payer. Donc soyons sachant raison garder, mais quand même il faut mettre l'accent sur le fait que les médias et en ligne ont abondamment réglé la chose. Donc, il est facile d'accuser les médias, mais qu'est-ce que vous-même vous faites pour que les médias s'en fonctionnent? Vous n'allez pas vous asseoir, vous ne payez pas le service des médias, vous ne donnez rien et vous demandez
quel service. Merci Olivier Adja d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne Afrique Presse. Merci beaucoup Germain Pouli, vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci Monsieur Yao Eklo Nkunu, vous êtes le président de
le TJP, temps de la jeunesse patriotique. Merci d'être passé dans cette émission. Alors, mon cher Corneille Kwasi, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes ingénieur commercial et analyste politique. Merci d'avoir contribué à ce débat à travers vos analyses. Merci beaucoup. Monsieur Abdoul Gafou et Djalib, hein, c'est bien Djalib, ça, je n'ai pas coché le nom. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé. Merci à tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et nous disons merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouti a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Losso. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Passez un bon week-end.